Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a déposé un projet de loi concernant à élargir la loi sur l'aide médicale à mourir, notamment, entre autres, l'ajout des personnes, exemple, qui ont une maladie incurable, par exemple l'Alzheimer. Ces personnes-là pourront maintenant poser une demande de l'aide médicale à mourir. Et pour aborder la question, on est avec nul autre que Véronique Yvon, qui est considérée comme la mère de la loi sur les soins de fin de vie. Bonjour, Madame Yvon.
Bonjour.
Sans plus tarder, ma première question est, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi-là qui a été présenté?
Ben, écoutez, je suis très en faveur de l'idée générale du projet de loi qui est de permettre, comme vous l'avez dit en introduction, là, qui est vraiment de permettre aux personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie neurocognitive. Donc, on pense d'abord à l'Alzheimer, ça peut être d'autres formes de troubles, de démence, qui vont mener à la perte des capacités, à l'inaptitude de la personne, de pouvoir formuler à l'avance une demande en expliquant le type de souffrance qui, à leurs yeux, va devoir donner droit à cette demande-là, et donc de faire en sorte qu'une personne qui va être souffrante alors qu'elle va avoir perdu son aptitude puisse être accompagnée et recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, le principe, pour moi, c'est vraiment une avancée en termes de, je dirais, d'allègement, d'apaisement des souffrances humaines, de respect de la personne. Mais évidemment, il y a des grands défis qui sont de faire descendre ce grand principe-là en disposition très concrète et que ce soit applicable sur le terrain. Alors, on travaille là-dessus et d'une manière effrénée parce qu'il ne reste que quelques jours à la session. On espère pouvoir y arriver, mais c'est pas encore dans la poche parce que c'est extrêmement complexe.
Si une personne veut poser une demande, il faut que ça soit fait avant, là, avant, dans le fond. Elle doit avoir son diagnostic, mais combien de temps elle doit le faire avant? Est-ce qu'elle peut le faire, tu sais, elle doit être lucide,
elle peut le faire,
évidemment, là?
Dès qu'elle a un diagnostic et qu'elle a eu le temps là, de réfléchir à ça, vous auriez un diagnostic d'Alzheimer, vous ne pourriez pas nécessairement le lendemain matin être jugé tout à fait dans le bon état d'esprit pour faire une telle demande, là. Mais il faut avoir le diagnostic, là. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire une demande dans les airs en sachant pas quelle maladie vous risquez d'avoir, puis juste dire, moi, si j'ai une maladie qui mène à l'inaptitude. Non, il faut que vous ayez un diagnostic parce qu'après, vous allez formuler une demande et vous allez être accompagné par un professionnel, soit un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, qui va vous aider à la formuler pour pouvoir décrire le type de souffrance que vous risquez de traverser dans l'évolution de votre maladie et donc que vous voudriez qu'il soit considéré pour donner ouverture à votre demande. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionnerait. Il y a comme le moment 1 où vous faites votre demande anticipée, accompagnée d'un professionnel, puis ensuite, il y a plusieurs, ça peut être plusieurs années plus tard, évidemment, lorsque votre maladie est très avancée, que vous n'avez plus votre capacité, votre aptitude et que vous êtes très souffrant. Là, il y a quelqu'un, un de vos proches que vous aurez désigné à l'avance, qu'on appelle le tiers de confiance, qui pourra en quelque sorte agiter un drapeau et dire à l'équipe de soins, « Hey, regardez ma mère, elle souffre, je trouve qu'elle semble souffrir énormément. Est-ce que vous pouvez amorcer l'évaluation parce que, comme vous le savez, elle a une demande anticipée et je pense qu'on est au moment où on devrait amorcer l'évaluation pour voir si elle répond aux critères et si elle devrait recevoir l'aide médicale à mourir. » Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionnerait.
D'accord, ok. Et sinon, dans une autre direction, là, ils souhaitent retirer l'admissibilité aux gens atteints d'un handicap neuromoteur. Là, j'imagine qu'avant, ils pouvaient poser une demande?
Non, en fait, ils ne peuvent pas, dans l'état actuel des choses, poser une demande. Mais quand le ministre a déposé son projet de loi mercredi dernier, là, il avait donné ouverture. C'était un autre changement à la loi. Il n'y avait plus juste la demande anticipée pour cause de perte d'inaptitude. Il a ajouté, quand il a déposé sa loi mercredi dernier, dans le projet de loi, il y avait une surprise, c'était maintenant d'inclure le handicap. C'était pas prévu. Donc, ce qu'il a retiré, c'est pas quelque chose qui était dans la loi actuelle, c'est quelque chose qu'il avait mis dans son projet de loi et qui a soulevé la surprise parce que ça n'a pas été débattu au Québec. Et donc, c'est pour ça qu'il a retiré de son projet de loi cette espèce de nouveau champ qu'il ouvrait dans son projet de loi, mais qui n'avait pas fait l'objet des discussions qu'on a faites dans une commission spéciale l'année dernière.
Et vous, pensez-vous que c'est une bonne chose qu'il l'ait retiré? Parce que c'est une personne qui est maintenant paraplégique, là, qui l'a pas été toute sa vie. C'est quand même un gros changement qui pourrait peut-être mener à... Peut-être que cette personne-là veuille demander l'aide médicale à mourir, là.
Oui, moi, je comprends l'intérêt de faire ce débat-là, tout à fait. L'enjeu, pourquoi j'étais satisfaite qu'il le retire, c'est parce qu'avec le délai qui nous restait, il a déposé son projet de loi en toute fin de session, une semaine devant nous, tout au plus deux semaines, ça devenait complètement irréaliste de pouvoir avoir un espoir d'adopter le projet de loi si on ouvrait deux chantiers, vous comprenez, la demande anticipée, qui est déjà extrêmement complexe, et de tout faire le débat sur le handicap, pour lequel on n'a pas entendu les groupes, les experts, les associations de personnes handicapées. Donc, c'est une question de pragmatisme de dire, ben là, si on veut être sûr qu'on n'y arrivera pas, on va garder ces deux débats-là. Donc, retirons celui-là qui n'a jamais fait l'objet de débat au Québec, qui n'a pas fait l'objet de notre rapport de la commission spéciale, contrairement à la demande anticipée. Puis, on évaluera dans le futur comment on traite ça. Parce que ça peut avoir l'air simple, la question du handicap, là, mais c'est quoi un handicap grave et incurable? Est-ce que quelqu'un qui est aveugle, ça devrait se qualifier. Une personne qui est sourde de naissance, est-ce que ça devrait se qualifier? Évidemment, ça a des souffrances, mais est-ce que toute une personne qui a une amputation d'un membre, d'un bras, par exemple, à la suite d'un accident de travail, est-ce que c'est un handicap qui devrait donner droit à l'ouverture de l'aide médicale à mourir? Est-ce que, dans le fond, la seule chose qui compte en termes de handicap, c'est la souffrance, ou il faut quand même un degré de handicap, par exemple neuromoteur élevé, vous voyez? Fait que c'est comme, il y a quand même des enjeux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des handicaps au quotidien, puis je pense qu'on souhaite pas envoyer le message que la vie avec un handicap n'a pas de sens et que les gens sont justifiés en toutes circonstances de demander de l'aide médicale à mourir. Ça peut être le cas dans certaines circonstances. Puis je vous dirais aussi qu'il y a l'enjeu du temps aussi. Un jeune homme de 20 ans qui fait un mauvais plongeon dans une piscine, qui se retrouve paralysé, je sais pas, des jambes ou qui est quadraplégique. Est-ce que deux mois, trois mois après, il pourrait faire une demande, ou est-ce qu'on veut s'assurer de donner un temps de passer à travers le choc, la dépression, évidemment, de vivre la nouvelle réalité, puis de se donner une chance de trouver un sens, vous comprenez? Fait qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux éthiques à savoir comment on encadrerait tout ça. C'était pas réaliste de dire qu'avec déjà tous les défis qu'on a pour les propositions qu'on avait faites dans la commission spéciale, qu'en plus on ouvrait un tout nouveau débat, là. Je pense que c'était beaucoup ça l'enjeu.
On voit qu'avec votre réponse seulement, on voit que c'est un débat qui est assez gros et qui va demander beaucoup de temps et que le monde s'implique beaucoup là-dedans. Et sinon, il y avait aussi le fait qu'il voulait pas nécessairement élargir aux gens qui ont des troubles mentaux. Pourquoi ça? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des demandes et que c'était pas nécessairement accessible dans un sens, je peux dire ça comme ça?
En fait, la commission spéciale, justement, a pas recommandé d'ouvrir aux troubles mentaux, pas parce qu'il n'y a pas de souffrances qui peuvent être graves. Tout le monde reconnaît ça. On peut pas discriminer entre maladie mentale et maladie physique, évidemment. Mais je dirais que ce qui fait que ça n'a pas été une recommandation, c'est qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de consensus autant chez les experts, les psychiatres, il y avait des avis vraiment divergents qui nous étaient donnés sur la capacité d'établir, par exemple, qu'un trouble mental est incurable, qu'il n'y a absolument plus rien à faire, parce que c'est le même cas, c'est comme une personne qui est handicapée, elle peut avoir 20 ans, il faut avoir un trouble mental grave qui vous occasionne des souffrances, mais vous n'êtes pas du tout en fin de vie, là. Vous pouvez avoir 20 ans, puis il y a des gens qui peuvent dire oui, mais est-ce que de poser un jugement définitif sur l'incurabilité de la maladie puis les souffrances, est-ce que ça nous rend confortable? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on met, je dirais, l'équilibre à la bonne place? Donc, il y avait tout ça. Il y avait aussi des gens qui nous disaient que On a eu des témoignages de personnes elles-mêmes aux prises avec des problèmes de troubles mentaux qui nous ont dit, moi, il y a 2 ans, j'avais un diagnostic qui n'était pas le bon diagnostic. Je ne le savais pas, mais on n'arrivait pas à me soulager. C'est sûr que j'aurais voulu l'aide médicale à mourir. 2 ans plus tard, j'ai vu d'autres professionnels. On a fait un nouveau diagnostic et là, on réussit à me traiter. Et donc, ce que je croyais avoir un trouble mental incurable, finalement, n'en était pas un, mais j'avais pas le bon diagnostic. Bon, des erreurs de diagnostic, ça peut toujours arriver. Mais quand vous êtes en fin de vie, par exemple, ou que vous avez une très grave maladie qui vous mène vers la mort, c'est une chose. Mais quand vous avez un trouble mental qui ne vous mène nullement vers la mort dans l'évolution de la maladie, je pense qu'il faut être vigilant. Fait que c'est pour ça, c'est que nous, ça a été des débats déchirants, là, parce qu'il y a vraiment des enjeux qui pourraient militer dans un sens comme dans l'autre, mais l'absence de consensus et d'absence de consensus aussi chez les groupes qui représentent les personnes aux prises avec des troubles mentaux a fait en sorte qu'on a décidé d'opter vraiment pour la prudence.
Et peut-être que ça, ce sera un débat qui reviendra pour
C'est fort possible.
Exactement, tout comme celui pour les handicaps neuromoteurs, là. Donc, parfait, c'est vraiment un dossier qui restera à suivre, mais pour l'instant, ce sera un projet qui sera adopté dans quelques jours, au moment où on se parle présentement. Ça reste un dossier à suivre, exactement. Donc, merci beaucoup, Madame Yvon, pour votre temps. Et on se reparlera lorsque le dossier reviendra sur la table lors des...
On verra s'il est adopté ou non, si on réussit à faire ce blitz-là d'ici le 10 juin.
Bien, merci beaucoup encore, Madame Yvon.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.